C'est un fléau qui touche depuis longtemps, depuis de trop nombreuses années, les institutions privées et publiques, le monde du travail, la famille et bien entendu les écoles. Les violences sexistes et sexuelles peuvent apparaître partout. Le Haut Conseil à l'égalité l'a démontré dans un rapport publié il y a un mois. Elle pointe l'ancrage des comportements sexistes, notamment dans les milieux scolaires, du CP jusqu'au master et même au-delà. L'université Clermont-Auvergne décide de prendre le sujet très au sérieux avec une grande enquête. Claire Berthonneau est chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette enquête a donc été menée entre les mois de septembre et octobre 2023. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette enquête nommée Jeudi ?
C'est une enquête donc, qui a été initiée il y a un peu plus d'un an et demi, presque deux ans, qui a été financée en partie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, l'objectif de cette enquête était surtout de voir un peu quelle était la prévalence des violences sexistes et sexuelles sur le territoire clermontois avec l'Université Clermont-Auvergne, mais également les établissements partenaires, Vétagrossup, l'école d'architecture, l'INP et le CROUS, de pouvoir, grâce à cet état des lieux, avoir aussi des préconisations, savoir un peu ce qui pouvait être mis en place, ce qu'on pouvait améliorer, ce qu'on pouvait faire pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. Et elle était aussi pensée comme un moyen de communication aussi, parce qu'à travers l'enquête, ça permettait aussi de faire connaître les dispositifs existants dans les établissements, la politique qui a été mise en place sur ces sujets-là, et donc d'avoir effectivement ce double objectif et de communiquer et d'avoir un peu cet état des lieux.
Et de voir, évidemment, prendre la température aussi, j'imagine, en tout cas, de quel est un petit peu le sentiment des étudiants, des doctorants, voilà, un peu dans l'université.
Tout à fait, c'était d'avoir un retour du terrain, parce qu'on a des chiffres nationaux, parce qu'on a un peu des idées de ce qui se passe quand même, mais c'est toujours intéressant d'avoir les chiffres du terrain, ça rend les choses beaucoup plus réelles. Et puis c'était intéressant aussi dans cette enquête de pouvoir à la fois interroger le public étudiant, mais aussi le public personnel. Parce qu'on sait aussi que ces violences, il y a de l'interrelation entre les deux publics et que c'était assez intéressant et nouveau de pouvoir avoir ces deux visions.
Au total, combien de personnes ont pu répondre, en tout cas auraient pu répondre à l'enquête ?
Alors, on était sur un périmètre à peu près de un peu moins de 40 000 personnes et on a eu à peu près 5 000 réponses, ce qui fait un taux de réponse de presque 12 %, ce qui, pour ce type d'enquête, est un taux assez important, surtout pour une période de passation qui était assez courte. Donc nous, on était assez contents du taux de participation et puis du coup, ça permettait aussi de donner des chiffres qui étaient exploitables et représentatifs du territoire.
Oui, globalement, les étudiants, en tout cas les répondants, ont été assez réactifs finalement.
Oui, les répondants étaient assez réactifs. Les personnels ont été très réactifs, mais les étudiants aussi et les doctorants principalement.
Est-ce qu'il y a l'une des catégories qui a le plus répondu qu'une autre ou ça s'est plutôt joué ?
Alors, en pourcentage de réponses par rapport au pourcentage de personnes concernées, ce sont les personnels qui se sont le plus mobilisés sur cette enquête. Je pense aussi principalement parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer, de les informer de la réalisation de cette enquête. Pour le public étudiant, c'est une des difficultés. Il y a un nombre d'étudiants énorme et du coup, c'est parfois pas évident de trouver les bons canaux de diffusion pour qu'ils aient l'information et puis qu'ils puissent compléter l'enquête.
Surtout avec les éventuels étudiants étrangers, enfin voilà, forcément.
Voilà, il y a les étudiants étrangers, il y a aussi le fait qu'on est sur plusieurs sites territoriaux, qu'il y a aussi des fois, en fonction des études, une identité à l'université qui est peut-être moins ressentie par rapport à des structures plus petites, qui fait que c'est parfois pas forcément évident de communiquer et qu'ils aient l'information et qu'ils se sentent aussi concernés par certains sujets.
Alors, dans les grandes lignes, quels sont un peu les résultats de l'enquête ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ?
Alors, les résultats, qui sont finalement des chiffres qu'on va retrouver au niveau national. On est dans la moyenne, malheureusement, des violences sexistes et sexuelles. C'est principalement à peu près, il me semble de mémoire, 55% des personnes qui ont été interrogées qui disent avoir été victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est déjà un chiffre assez effarant. Ensuite, on voit aussi, c'est un des chiffres qui a vraiment interpellé, que le fait d'être au croisement de plusieurs discriminations augmentait énormément le risque de violences sexistes et sexuelles, puisque notamment quand on compte les hommes, les hommes qui sont du coup au croisement de plusieurs discriminations ont 40% de chances de plus de subir une violence sexiste et sexuelle qu'un homme blanc tel qu'on on l'imagine. Du coup, une femme aussi qui va avoir du coup plusieurs risques de discrimination liés aux origines, liés au handicap, est face à une augmentation énorme aussi des risques de violences sexistes et sexuelles. Je ne me souviens plus des chiffres, mais je crois que ça multiplie par 3.
Oui, c'est comme énorme, disons-le.
C'est énorme, oui.
Cette enquête, elle prend aussi en compte peut-être éventuellement les discriminations liées à la sexualité, à vous le disiez, au handicap, j'imagine.
Et bien, du coup, c'était une des questions, en tous les cas, présentes dans l'enquête, d'essayer d'identifier justement est-ce que le fait d'avoir, de souffrir d'autres discriminations, alors liées aux origines, au genre, au handicap, est-ce que c'était un facteur qui augmentait les risques? Et effectivement, ça a été montré avec des chiffres même beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait imaginer. Après, il n'y a pas eu vraiment de questions spécifiques sur une autre discrimination, puisque le but de l'enquête, c'était vraiment les violences sexistes et sexuelles. Mais c'était intéressant d'avoir ce retour sur les risques en lien avec l'intersectionnalité et le fait d'être face à plusieurs discriminations.
Le paradoxe aussi, c'est de voir qu'une grande majorité pense que leur école est sécurisée, en tout cas ne pense pas que leur école est sexiste, mais quand même, vous le disiez, 55% des répondants ont été victimes ou ont vu une agression sexiste ou sexuelle. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe?
Alors pour moi, il s'explique par une normalisation et une banalisation de tout ce qui est lié aux violences sexistes et sexuelles. Et je pense que quand on pose la question à la majorité des personnels et des étudiants de savoir si l'environnement de travail ou l'environnement des études est sécurisant, la majorité vont dire oui. Et puis dans cette enquête, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a plusieurs violences sexistes qui étaient interrogées, mais il y avait aussi des exemples qui étaient donnés. Et donc du coup, le fait d'avoir ces exemples-là permettait de pouvoir identifier des événements qui peut-être au départ n'avaient pas été identifiés comme des violences sexistes et sexuelles. Et donc je pense que ça explique aussi cette différence entre le fait d'avoir l'impression d'être dans une ambiance plutôt sereine et de se rendre compte en s'interrogeant un petit peu, de se dire mais en fait j'ai été confrontée plus que ce que je pensais à ces violences sexistes et sexuelles.
Et oui, c'est de dire aussi, de savoir un petit peu, de dire quand est-ce qu'on va trop loin et jusqu'où, enfin à partir de quand commence justement le statut de violence finalement.
Tout à fait. Et puis souvent, quand on a cet imaginaire derrière les violences sexistes et sexuelles, où tout le monde est en capacité d'identifier ce qu'on va mettre derrière une agression sexuelle, derrière un viol, mais il y a tout un tas d'autres violences qui sont à la base, qui sont le terreau et qui vont, c'est ce qu'on appelle aussi la culture du viol, qui vont permettre du coup d'autoriser et d'arriver à des degrés, si on peut mettre un degré de gravité, mais en tout cas des choses qui sont identifiées comme beaucoup plus graves. Et souvent, le terreau, il est peu identifié parce que c'est banalisé, parce qu'on le retrouve dans la publicité, dans la communication partout, et que donc, du coup, on ne le voit plus forcément. Et de pouvoir l'identifier, c'est aussi un moyen de ne pas le tolérer et d'éviter qu'ensuite, on arrive à des choses qui soient beaucoup plus graves.
Oui, finalement, il va y avoir un cheminement, avec une graduation qui va forcément être exponentielle au fur et à mesure du temps.
Tout à fait. Et c'était intéressant aussi dans cette enquête, c'est ça, c'est de pouvoir aussi se dire il y a des choses qui sont de l'ordre des violences sexuelles et que je n'avais peut-être pas forcément identifiées. Et puis aussi se dire mais voilà, je me suis habituée, je vis avec, mais finalement, c'est aussi des choses qui peuvent apporter des souffrances, qui apportent un climat qui n'est pas très, on va dire en restant simple, au moins pas très agréable, mais qui voit peut-être même source d'anxiété, mais voilà, ça fait partie du quotidien, donc finalement, on l'identifie plus.
Qu'est-ce qui est considéré comme banalisé, en tout cas, sur les réponses qu'il peut y avoir dans l'enquête?
Alors, tout ce qui est lié plutôt aux propos sexistes. Je pense que quand on arrive à un niveau où on va parler de harcèlement sexuel, de violence sexiste et sexuelle dans l'agression, c'est vraiment identifié. Par contre, tout ce qui est comportement sexiste, ambiance sexiste, propos sexiste, c'est dans certains environnements des choses qui sont banalisées et qu'on n'identifie plus forcément.
Même chez la jeune génération, il y a aussi, sans parler d'omerta, mais en tout cas une espèce de retenue justement à devoir libérer sa parole.
Au vu des chiffres, moi, j'aurais plutôt envie de dire qu'il y a un peu des montées des extrêmes, dans le sens des personnes qui vont être vraiment extrêmement conscients de ce qui se passe et qui vont du coup alerter. Et puis à l'inverse, une banalisation sur une autre tranche de la population qui va considérer que c'est quelque chose de normal et qui ne va pas forcément réagir à ça.
Mais depuis quelques années, au-delà peut-être de l'enquête, on voit quand même une libération de la parole par rapport à ça dans les universités.
Alors je pense qu'il y a une libération de la parole. Après, moi, je préfère parler plutôt de libération de l'écoute, parce que je pense que la parole, elle était là, elle a toujours été là, et on le voit un peu dans tous les domaines, hein, des violences sexistes et sexuelles. Mais ce sont des questions qui sont assez récentes pour les universités. Les premières cellules, c'est 2018. Et donc, du coup, depuis 2018, les universités construisent les dispositifs, ça prend du temps. Il y a l'écoute, il y a l'accompagnement, il y a après les procédures de signalement, il y a la sensibilisation. Et donc, je pense que c'est plus que la machine est en route, mais que ça prend un peu de temps avant de pouvoir bien écouter ce qui était déjà dit depuis un moment.
Alors, ces cellules d'écoute, vous les avez mis en place depuis pas mal d'années. Vous allez les renforcer pour les prochains mois, peut-être ?
Alors, du coup, la cellule d'écoute, clairement, effectivement, elle a été mise en place en 2018. On a élargi aux discriminations en 2021. Sur l'accompagnement et l'orientation, donc on va effectivement développer certains partenariats, développer l'accompagnement. Mais ce sur quoi on va, je pense, plus travailler, c'est sur la clarification des procédures et sur bien différencier ce qui est de l'ordre de l'écoute et de l'accompagnement, ce qui est de l'ordre du signalement, avec certainement un autre dispositif pour signaler, et ce qui est de l'ordre des procédures, des enquêtes et éventuellement des sanctions.
L'université peut jouer un rôle sur aller peut-être jusqu'à le dépôt de plainte, peut-être ?
Alors du coup, l'université a pas de rôle à jouer au niveau légal dans le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est vraiment une décision personnelle de la victime. Par contre, en parallèle, elle a des obligations. Et donc, elle a des obligations qui vont passer plutôt par des obligations administratives, alors que sur le côté légal, on est plutôt sur des obligations sociétales. Et donc l'obligation de l'université, c'est de pouvoir identifier une faute, donc une faute professionnelle en lien avec le code du travail ou en lien avec le statut de fonctionnaire, et de pouvoir identifier un comportement qui porte atteinte au bon fonctionnement, à la réputation de l'établissement. Et donc du coup, sur ces axes-là, sans forcément qualifier les faits, parce que ce n'est pas le rôle de l'université, l'université va pouvoir dire qu'il y a eu une faute, il y a eu une action, un acte, un comportement qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, et donc du coup pouvoir mettre en place des sanctions. Donc ça existe, mais c'est plus général que sur les violences sexistes et sexuelles. Et le travail qui est fait depuis quelques années, c'est de pouvoir l'adapter sur ce qui est lié aux violences sexistes et sexuelles, avec notamment la formation des personnes qui sont membres des sessions disciplinaires, pour pouvoir justement accompagner sur qu'est-ce qu'on met derrière une faute, qu'est-ce que c'est l'atteinte au bon fonctionnement, à la réputation de l'établissement, avec les sanctions qui vont avec.
Globalement, je ne sais pas si vous avez des chiffres, combien de personnes viennent dans les cellules d'écoute, est-ce qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent ?
Beaucoup moins que ce qu'on espérait. À Clermont-Ferrand, de toute façon, on a publié les chiffres, on est à peu près une cinquantaine de signalements par an, ce qui est finalement un chiffre qui est pas mal au niveau national, puisque pour avoir échangé avec d'autres universités, les chiffres sont souvent un peu plus bas, à part certaines universités qui ont vraiment, c'est le cas d'Aix-Marseille, qui a vraiment dédié un service avec trois personnes autonomes qui travaillent sur ces questions-là. Et donc là, du coup, effectivement, ils ont vu le taux de signalement augmenter. Sur 50, on est plutôt dans la moyenne haute des signalements. Et puis ensuite, une chose qui est importante aussi, et souvent on n'a pas conscience de ça, c'est que quand il y a un signalement, une demande d'écoute et d'accompagnement, dans la majorité des cas, la première demande de la victime, ce n'est pas la réparation et ce n'est pas la sanction. C'est on a besoin d'être écouté, on a besoin d'avoir des dispositifs pour pouvoir continuer ses études, continuer à travailler dans un cadre serein, mais pas forcément d'être dans la réparation ou dans la sanction. Donc du coup, il y a quand même beaucoup d'accompagnements qui se font, en tous les cas dans un premier temps, plutôt dans moi je vais être écouté et ensuite je vais pouvoir continuer mes études de façon sereine.
Oui, parce que forcément, derrière la libération de la parole, il y a aussi une peur des conséquences directes et indirectes pour les victimes.
Il y a effectivement, on le voit d'ailleurs dans l'enquête, hein, une des trois réponses qui avait été donnée sur la raison du non-signalement, c'était la peur des répercussions. Donc, et ça, on le retrouve de toute façon aussi bien sur les personnels que sur les étudiants et les étudiantes, et on le retrouve pas que dans l'enseignement supérieur.
Au-delà des cellules d'écoute, est-ce qu'on peut faire autre chose à l'échelle de l'université, enfin, à l'échelle en tout cas scolaire?
Alors, la cellule d'écoute, elle, c'est très bien parce que ça permet de traiter quand il y a des violences sexuelles, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui est prévention, sensibilisation, un affichage de tolérance zéro de l'université, parce que pour moi, s'il faut, c'est lutter sur... il faut lutter sur le terreau, il faut lutter sur la base et pas intervenir quand il y a eu des violences sexuelles. On compare, moi j'aime bien cette image, on compare beaucoup les violences sexistes à... Moi j'aime bien le principe du jeu du chamboule-tout. On voit les violences sexistes un peu où l'iceberg des violences, où on voit les violences qui ne sont pas trop vues, qui sont à la base de l'iceberg, sur lesquelles on n'intervient pas forcément et on va commencer à intervenir plutôt quand on arrive sur des violences vraiment identifiées mais graves. Et intervenir en bas de l'échelle, par la prévention, par la sensibilisation, ça permet d'éviter l'escalade. Et c'est un peu comme le principe du chamboule-tout, c'est-à-dire que quand on tire sur le chamboule-tout, sur la tête de la pyramide, on va faire tomber une ou deux boîtes de conserve, mais on va les remettre très facilement. Si on tire à la base, tout s'effondre et donc du coup, on lutte beaucoup plus facilement contre les violences sexuelles.
Et cette prévention, elle passe par des cours, par vous l'avez diffusé, je crois, des courts-métrages ou des sessions de sensibilisation?
Alors, il y a plusieurs actions qui sont possibles. Et c'est vrai qu'à l'université, on a proposé... Alors, il y a des expositions, il y a des courts-métrages, il y a des cours qui ont été créés, effectivement, des formations aussi pour les associations étudiantes, des unités d'enseignement aussi qui permettent d'engager des étudiants sur la réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Parce que souvent, quand les étudiants sont moteurs, le message passe beaucoup mieux de pair à pair. Donc, ça fait partie aussi des actions qu'on va essayer de développer. Et puis après, des services à l'université qui vont porter aussi la sensibilisation, les actions de sensibilisation, c'est important.
Alors ici, on est forcément à l'université, donc des personnes qui sont, quand elles rentrent à l'université, quasiment adultes, hein, disons-le. Il faudrait aussi peut-être prendre le problème avant l'université, vous pensez?
Oui, je pense. Alors c'est déjà fait je pense, hein. Mais effectivement, de toute façon, c'est un problème qui touche tous les milieux, tout le monde. Et puis on voit dans les chiffres aussi que la majorité des violences sexuelles sont commises sur des personnes qui sont mineures. Et donc du coup, c'est vraiment important de sensibiliser dès le plus jeune âge sur ces questions. Et puis d'avoir, on le dit souvent finalement, les enfants qui sont victimes de violences sexuelles, souvent ils ont... parler, mais on ne les a pas forcément entendus. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête pour être plus attentif.
Il y a une note d'espoir quand même à noter qu'un jour, on pourra étudier sans avoir peur, en tout cas, ou en tout cas sans avoir d'appréhension.
J'espère. Je pense que déjà, le fait que ce soit plus visible et que ce soit écouté, ça permet déjà d'entamer des démarches qui vont amener à un lieu qui sera plus sécurisant et serein pour les étudiants et les étudiantes. Du coup, on parlait effectivement des différentes actions qui sont organisées dans le cadre de l'université. L'université organise le mois de l'égalité pour le mois de mars, que c'est un mois qui est identifié alors, de par le 8 mars, mais aussi le 21 mars, qui est la journée mondiale de lutte contre les discriminations, comme un mois où il y a moyen de parler de ces questions-là. Et donc, on organise différents événements, des expositions sur tous les sites clermontois et des territoires de l'université, des ciné-débats, des conférences, justement sur ces thématiques-là, pour essayer de mettre un peu l'action sur ces questions-là.
Merci beaucoup, Claire Bertoneau, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations à l'université Clermont-Auvergne. Merci à vous.
Merci.